Souvenirs de famille, François l'ermite, évoqué par son fils Sylvain l'ermite.
Si je devais résumer mon père en un mot, je dirais c'était la joie de vivre et l'amour de l'humanité. Ça fait deux mots. Voilà, c'était un homme qui avait un charisme, un amour des autres, une dévotion à son métier de médecin qui était très rare et que j'ai découvert un peu après sa mort, c'est-à-dire que ce sont les témoignages des gens qui l'ont connu et qui m'ont dit « Ah, voilà, votre père m'a soigné ». Et vous savez, c'était un homme qui avait tellement d'amour et tellement d'attention et qui se donnait. Et moi, j'ignorais toute cette dimension de lui. Mais je dois dire, rétrospectivement, j'ai reconnu le père que j'avais eu dans ces témoignages. C'est-à-dire qu'ils me l'ont fait connaître.
Le professeur François l'ermite a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques le 2 juin 1975, au fauteuil précédemment occupé par Roger Milhaud. Dans la section morale et sociologie, il avait 54 ans. Né à Paris le 4 mars 1921, il a été reçu docteur en médecine en 1950 et 10 ans plus tard, il était chef de service à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, ayant fait de la neurologie et de la neuropsychiatrie sa spécialité médicale, discipline qu'il enseigna à la faculté de médecine de Paris, puis à l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie. Il fut le président de plusieurs sociétés savantes internationales en neuropsychologie. Ses recherches sur le cerveau le conduisirent à étudier particulièrement l'aphasie et tous les accidents vasculaires cérébraux.
Dans le domaine de la médecine et de ce que des échos que nous avions de son travail de médecin, c'était une permanente curiosité et un désir d'investigation qui me frappait chez lui et qui faisait qu'il rentrait à la maison et nous racontait ses expériences et les nouveaux malades qu'il avait trouvés et les syndromes ou les maladies qu'il était en train de découvrir. C'est comme ça qu'un jour, il a étudié un comportement qu'il a appelé comportement d'imitation, dans lequel les gens reproduisent les mouvements qui leur sont montrés. Mais alors, en toute dépendance. C'est-à-dire qu'on retire sa chemise, la personne va retirer sa chemise. Et si on lui demande pourquoi, elle dira « parce que vous l'avez fait ». « Ah oui, mais je ne vous ai rien demandé, mais vous l'avez fait ». Et alors ce désir de connaître, cette soif de savoir, était toujours mêlé d'un très grand respect pour les patients avec lesquels il était. Il les amenait chez lui quelquefois, ou il allait chez eux, ou il était pris d'un désir impatient de donner une réponse à une question qu'il se posait sur une maladie, alors il fallait que dans les heures qui suivent, il puisse trouver le patient. Alors il l'appelait, puis trouver un moyen de le retrouver. Alors ses consultations à l'hôpital avaient aussi tout ce, on va dire, cet enthousiasme et ce charisme. Et je dois dire que les élèves de mon père que je connais aujourd'hui, qui ont pris sa succession, Yves Agide ou Olivier Lioncamp, sont des hommes merveilleux et qui gardent de lui des souvenirs si riches et qui apportent des témoignages tellement beaux. C'est-à-dire, il y avait là vraiment un maître qui a transmis quelque chose, une humanité et un savoir, un amour du métier à ceux qui lui ont succédé.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin.
Il y a des phases dans la vie d'un homme. Et ça n'est que dans une période appelée de maturité que j'ai pu découvrir la bonté de mon père. Dans la première période de ma vie, quand j'avais, mettons, jusqu'à 20 ans, j'en étais totalement ignorant. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai pu rétrospectivement comprendre ce que j'avais alors ignoré. Mais ça n'est que dans la dernière période de sa vie que j'ai vu un homme qui était dévoué à ses petits-enfants, à ses enfants, aux familles associées, et qui nous recevait dans sa maison de Normandie d'une manière très soignée, très délicate, en portant la plus grande attention aux fleurs, aux plats, à la maison, à la manière de nous recevoir. Mais je dois dire que dans une période antérieure, il était si pris par son travail, on ne voyait pas beaucoup. Il voyageait beaucoup, il était associé à de nombreuses personnalités neurologues dans différents pays du monde, au Pérou, aux États-Unis, en Angleterre. Alors, je dois dire, pour un enfant qui faisait des collections de timbres, c'était formidable. Vous voyez, j'avais toujours là une richesse de timbres qui arrivait tous les matins à la maison. C'était très bien. Et puis, nous avions à la maison ces visites de personnalités comme Oscar Treyes, qui est un grand neurologue péruvien, ou d'autres qui venaient. Et ça, c'était des influences ou des impressions excellentes et riches pour la croissance d'un enfant. Mais si on revient à lui, dans ses relations aux autres, il aimait séduire, il aimait parler, il aimait tant parler que ça nous cassait les pieds. Bon, alors, c'est encore son numéro de parole, bon. Mais c'est vrai qu'il avait une intelligence exceptionnelle, un art de convaincre, qui lui permettait quelquefois de convaincre d'une chose à l'instant et de son contraire à l'instant d'après, sans en éprouver le moindre remords.
Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je dépaille en tombant et je meurs à moitié et j'endorme.
C'était un homme qui lisait beaucoup et qui avait un grand amour, mais de certains livres. Il aimait Proust, il aimait Valéry, peut-être plus que tout. Il avait appris par cœur Le cimetière marin et avait chez lui un exemplaire qui était annoté et avec un de ses meilleurs amis se retrouvait, lisait ensemble ce cimetière marin et commentait les vers de Valéry. Il n'aimait pas la musique. C'était un homme qui avait une mauvaise disposition pour la musique, qu'il qualifiait lui-même de « a-musique », c'est-à-dire qu'il ne faisait pas la différence entre la Marseillaise et une symphonie de Beethoven, ou à peine. Il n'entendait pas la musique. Il avait un grand amour pour les arts plastiques, la peinture, à laquelle il était très sensible. Il avait reçu en matière de peinture des dispositions et une éducation qui lui a permis d'aiguiser son regard et de développer un véritable goût et une connaissance pour les arts plastiques, grâce à son grand-père Léon Lhermitte, qui était ce peintre de la paysannerie française de la fin du XIXe siècle. François Lhermitte collectionnait les tableaux d'art moderne à la fin de sa vie. Je dois dire que c'était peut-être un peu douteux, parce qu'il était entre les mains de quelques marchands de la rue de Seine qui lui vendaient des grandes toiles à des prix très élevés. Et je dois dire, quand on les a fait estimer un peu plus tard, ça ne valait plus rien. Mais il avait ce goût pour la peinture et il aimait faire des paris, c'est peut-être ça, vous voyez. Et quand il me parlait des œuvres que moi je trouvais très laides, qu'il avait achetées, quelquefois, d'autres fois très belles, alors, il me disait, mais tu vas voir, il faut t'attendre 20 ans, 30 ans, et ça sera très bien. Bon, attendons.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.
Mon père écrivait des lettres. Et le soir, très tard, jusqu'à 1h, 2h du matin chez lui, il écrivait. Et il écrivait jusqu'à ce que le sommeil le prenne et l'endorme sur sa table ou que son stylo tombe. Ce qu'on voyait d'ailleurs sur le papier, il y avait une tache où le trait avait glissé. C'était une manière pour lui de clore la journée. Alors la correspondance était très belle, nombreuse, très attentive à tous ses enfants, et elle témoigne de la grande attention qu'il avait pour chacun de nous. Il n'écrivait pas de livres.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Alors nous avions un bateau sur le bassin d'Arcachon qui était un ravissant voilier en bois de cèdre sur lequel, presque chaque jour pendant le mois d'août de mon enfance, avec mon père, nous traversions le bassin pour aller manger des huîtres dans un restaurant à l'époque qui était une petite gargote minuscule qui s'appelait chez Hortense, de l'autre côté du bassin, et qui est devenu aujourd'hui un restaurant très chic et très demandé. Mais alors à l'époque, c'était merveilleux, on mangeait sur les tables, étaient posées sur le sable, et on dégustait des soles, des huîtres et du crabe, au milieu d'une très belle journée de bateau. Il aimait le bateau. Il était très sportif. Il avait été, après la guerre, il avait une vingtaine d'années, champion de France de plongeon. Mais j'ai vu les photos de lui plongeant. Je veux dire que le saut de carpe, c'était quelque chose de très réussi, très élégant. Il était élégant, il aimait séduire, il aimait les femmes, il aimait manger, il aimait la vie, il aimait rire. Et les amis, il a eu tant d'amis, vous voyez, et il les aimait. Alors ça, ses compagnons d'amis médecins, dont les noms ont sonné dans toute mon enfance, Fritel, Chin, Castaigne, bien entendu, Paul Castaigne qui était mon parrain et qui était son compagnon, un grand neurologue, Paul Castaigne. Et ça, les amis, pour François Lhermitte, c'était une chose, c'était comme son navire, vous voyez, c'était son patrimoine. Et ce groupe d'amis très solidaires, qui ont comme traversé la vie ensemble. La chasse, il aimait beaucoup la chasse. Alors, il chassait quelquefois aux chasses présidentielles à Chambord. Il y avait tout un groupe d'amis qui étaient des grands chasseurs. C'était Jean-Claude Roussel, qui était directeur du laboratoire Roussel. Et toute cette bande de compagnons se retrouvait plusieurs fois dans l'année, dans la période de la chasse, pour des grandes journées de chasse au gros gibier, au sanglier, et puis des dîners, des fêtes dont nous recevions les échos à la maison. Et puis, il y avait aussi René Floriot, qui faisait partie de cette compagnie chez lequel mon père allait souvent chasser. Alors là, c'était chasser le canard, dans cette grande chasse qu'on appelait la canarderie, sur les étangs de Hollande, près de Paris, près de Versailles. Et un jour, figurez-vous, je rentre à Paris de vacances de ski et j'apprends que mon père a hérité de la chasse de Floriot. Magnifique. 40 hectares d'étang à 20 minutes de Paris. Une immense chasse. Une maison sur ces étangs, c'était celle-là. Pas d'autre maison. C'est-à-dire qu'on peut y aller le soir pour dîner, passer la nuit, revenir le matin pour travailler. Extraordinaire. Alors Floriot, qui n'avait pas d'enfant, a légué sa chasse à mon père à sa mort. Il y a eu d'autres histoires comme celle-là qui sont très belles et qui témoignent de la fidélité dans l'amitié. C'est des gens que mon père avait accompagnés jusqu'au bout et qui, sans rien dire, ont laissé ça, puisqu'il ne le savait pas lui-même.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées.
Mon père avait d'abord une grande connaissance des maladies, comme la sclérose en plaques, qu'il a beaucoup soignée. Et un diagnostic que tout le monde s'accordait à trouver remarquable. C'est-à-dire qu'il avait cet art de voir immédiatement ce qui se passait dans le corps de la personne. Et il voyait quelqu'un dans la rue, il me disait, ou dans un restaurant, il me disait « Ah, ça, c'est un cas de... » Il avait ce sens qui est comme un magnétisme, un talent extraordinaire. Et puis, associé à ça, associé à cette capacité à voir, un désir d'aider. Et un désir de faire pour la personne. Son hôpital était un lieu qu'il voulait heureux. Alors il avait inscrit sur le mur des règles, qui étaient des règles d'humanité. 1, 2, 3, il y en avait peut-être 10. et qui tenaient toutes à la qualité qu'il fallait apporter de la part des infirmières et des médecins et de tous les services à ceux qui étaient reçus là, pour que l'hôpital soit comme une maison, un lieu d'accueil et un lieu de joie, et que ce ne soit pas un lieu où on est enfermé et on souffre avec sa maladie. Alors c'était inscrit, je me souviens, il y avait les règles de François l'Ermite sur les murs de l'hôpital, qui étaient des rappels à la joie, au partage, à l'accueil. Le service de mon père, qui est un grand service qui a été construit spécialement pour lui au début des années 60, à la Pitié-Salpêtrière, service très moderne à l'époque. Il y avait, je me souviens, des premiers microscopes électroniques. Ça, c'était, on m'a emmené le voir quand j'étais tout enfant. Un microscope électronique, c'était, à l'époque, c'était prodigieux. Eh bien, ce bâtiment ultramoderne était exactement voisin des petites bicoques dans lesquelles étaient enchaînés les aliénés lorsque Pinel les a délivrés au XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle. Alors, ça faisait un contraste tout à fait intéressant. Et on voyait ces petites maisons qui étaient comme des chenils ou des niches avec les chaînes devant, puis la barrière. Et il y avait là des tableaux qui nous montraient ces pauvres aliénés enfermés. Et puis, à côté de ça, le service qui était un service dans lequel on essayait de rendre les gens libres et heureux et sains.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guirlandes, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur.
Il a été président de l'Académie des sciences morales et politiques pendant une année et a décidé de consacrer sa présidence, c'est-à-dire le choix des invités qu'il allait avoir pour les communications, à la question de la création. Alors, qu'est-ce que c'est que la création ? Et il a donc invité des cuisiniers, des peintres, des tailleurs, des journalistes, à parler chacun dans son domaine de ce qu'est la création. Alors, il y a eu une année assez foisonnante, exubérante. Il aimait rire. Vous voyez, un jour, Salvador Dali, plutôt les médecins de Salvador Dali, qui n'étaient vraiment pas bien à l'époque, font appel à mon père, alors qu'il va lui donner une consultation en Espagne. Alors, il trouve Salvador Dali complètement grabataire sur son fauteuil, qui ne pouvait plus bouger. Alors, mon père l'examine, pof, les jambes, le corps, bon. Et puis, la consultation se termine, et mon père s'apprête à partir. Et là, comme un ressort, Dali se jette sur lui, lui griffe le visage, lui arrache ses lunettes et piétine les lunettes. Alors, en petits morceaux. Alors, mon père est rentré à Paris sans ses lunettes. Et puis, une fois à la maison, il a pris un joli carton. Il a fait photocopier dessus la signature de Dali. Et puis, avec des bouts de ficelle, il a attaché sur le carton les morceaux de la lunette, et puis il a encadré le tout, direz-vous. Alors il s'est fait un Dali. Et quand après sa mort, un expert est venu à la maison, ça a été expertisé comme un véritable Dali.